Nous avons vu Saül, le roi David, et chacun d'entre eux nous a donné des leçons. Peut-être une des plus importantes, c'est celle de la semaine dernière. Un des secrets les plus importants pour réussir la vie chrétienne, ce n'est pas de remporter des grandes victoires, mais c'est de savoir revenir à Dieu de tout son cœur. Et ça, c'est la leçon de la semaine dernière, je crois que c'est une des plus importantes. Et pourquoi est-ce que David a été un homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi est-ce que David a été un homme qui, jusqu'à aujourd'hui encore, marque des milliers d'êtres humains sur la terre quand il pense à cette histoire? Parce que c'est cette capacité qu'il avait de revenir au Seigneur. On mesure pas l'influence, mais dans beaucoup de chants que nous chantons, il y a des extraits des psaumes de David que Dieu a inspirés par le Saint-Esprit pour que on puisse être fortifié par cela. Et je sais pas si ça vous arrive, mais quand on est découragé, quand on est fatigué, quand on n'a pas envie de lire la Bible, et qu'on ouvre les psaumes, même si on n'a pas envie, ça fait du bien à notre cœur. Il y a quelque chose qui se passe, parce que c'est dans la simplicité d'un homme qui se tient dans son épreuve, mais qui crie à Dieu, mais qu'il a écrit ces chants-là, et ça nous touche, parce qu'on vit la même chose. Ça, c'était David. Ce matin, on parle de Salomon. On va lire dans 1 Chronique au chapitre 22. 1 Chronique au chapitre 22. Ce que David a demandé à Salomon. David était sur le point de mourir et donc c'est un petit peu son testament qu'il laisse à son fils. 1 Chronique chapitre 22 et au verset 6. Voilà ce qu'il est écrit. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang. Tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères, et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. C'est des belles paroles, hein? On peut dire que jusqu'au bout, David est inspiré. Inspiré par le Seigneur. Mais en même temps, quelle responsabilité pour ce jeune homme qui commence à rentrer dans le règne. Et quand on lui dit, voilà, moi j'avais intention de bâtir un temple au Seigneur, quelque chose d'incroyable pour l'honorer, je peux pas le faire, c'est toi qui vas le faire. On imagine une certaine pression, mais on voit que c'était selon une promesse que l'Éternel avait faite. David avait ce cœur-là qui cherchait Dieu et qui savait qu'à un moment donné, le temps de la tente du tabernacle c'était fini, il fallait qu'il y ait quelque chose en dur, des briques. Il fallait qu'il y ait quelque chose de durable, qui soit dans le pays d'Israël, un endroit où le peuple puisse venir sacrifier à son Dieu. Et il avait ce cœur de le faire, mais il a demandé à son fils de le faire, parce que c'est Dieu qui lui a demandé. Dieu a envoyé son prophète, encore une fois. Cette fois-ci, c'est pas pour pointer son doigt dans son visage en disant « Tu es cet homme, c'est toi qui as péché !» mais en disant « C'est pas toi l'homme cette fois-ci, ça sera ton fils. » Tu es un homme de guerre, et c'est vrai, quand on lit l'histoire de David, on s'aperçoit que c'était un guerrier, un vaillant soldat. Du coup, il a fait couler du sang. Mais son fils, c'était un homme de paix. Ce matin, je voudrais insister véritablement sur la paix. Si nous voulons régner dans la vie, nous devons être des personnes qui ont ce cœur dans le repos. D'ailleurs, Salomon, le roi de paix, Salomon, le mot Salomon, le nom Salomon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire paix ou paisible. C'est pas pour rien que Dieu a demandé à David qu'on lui donne ce nom-là. D'ailleurs, il explique, hein, parce qu'il aura de la paix. Les ennemis seront toujours là, mais il sera tranquille dans le pays, parce que Dieu avait déterminé qu'il y a un temps de paix pour pouvoir bâtir justement sa maison dans ce pays d'Israël. Et on sait que à la paix, il s'est associé d'autres choses autour. Hein. Il n'y a pas eu que la paix. Quand le Seigneur nous donne sa paix, combien il y a de conséquences bénies qui accompagnent la paix. C'est comme quand on a une épreuve. Il n'y en a pas qu'une épreuve, il y a souvent plein d'épreuves qui se greffent autour. Mais quand le Seigneur nous bénit, c'est la même chose. Salomon était l'homme paisible, l'homme qui avait le cœur en repos, et tant qu'il est resté dans cette attitude-là de cœur, on sait que le règne de Salomon a été béni, et qu'il a été préservé de tous les ennemis. Peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois, je ne sais pas encore, de voir que sur la fin de sa vie, ça a changé cela. Et ça a suscité dans la vie de Salomon des ennemis. Il y a des gens qui étaient dans sa maison qui se sont retournés contre lui. Mais ça, c'était dès l'instant où il a commencé à laisser du terrain aux choses de la terre. Et quand on laisse du terrain aux choses de cette terre, le résultat, c'est que, eh ben, on perd la paix de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il y a des épreuves, des adversités que Dieu n'avait pas voulu forcément, mais qu'on a suscité de nous-mêmes en abandonnant le Seigneur petit à petit. Combien c'est important de veiller sur nos vies. Une des premières raisons qui fait que Salomon était un dieu de paix, c'est que quand David est mort, il a réglé les affaires du passé qui traînaient encore. Vous savez, parfois il y a des affaires qui sont là dans nos vies et qui traînent. Il y a encore des conséquences et c'est pas tout à fait réglé. Il y a un peu de confusion dans tout cela. Et Salomon, quand il a commencé son règne, c'est exactement ce qui se passait. Il y avait des hommes qui était dans son royaume, qui s'était rebellé, qui s'était révolté, qui avait fait des conspirations pour que ça soit pas Salomon le roi, mais ça soit un autre fils de David qui soit roi, et ils étaient dans le royaume paisiblement comme si de rien n'était. Et David lui a fait promettre sur son lit de mort, je vous passe les détails, vous lisez ça dans Deux Rois, et vous voyez que David a fait promettre sur son lit de mort de régler ce que lui n'a pas pu régler parfaitement, il demande à son fils de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on sorte notre épée, qu'on aille régler nos comptes avec ceux qui nous ont fait du tort? C'est pas ça du tout, hein. Mais c'est spirituellement parlant, il ne faut pas laisser quoi que ce soit qui traîne. Il ne faut pas laisser traîner derrière nous des casseroles. Il faut couper à un moment donné la ficelle et régler les choses et redonner les casseroles à qui elles sont. Parce que le Seigneur nous appelle à être de ceux qui, s'il y a besoin, se réconcilient. S'il y a besoin de pardon, on pardonne. S'il y a besoin d'avancer et de laisser les choses du passé, ben on le fait, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. On pourrait lire dans Deux Rois, mais c'était Un Roi. C'est là que vous trouvez justement les paroles de David concernant son fils. Alors, Un Roi, chapitre 2, verset 1er. Un Roi, chapitre 2, verset 1er. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. » Vous avez vu comment il dit bien les choses, hein, en disant qu'il s'en va vers le Seigneur. « Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. » Ça vous intéresse, ça? Mais regardez à quoi c'est conditionné. Et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité, devant moi de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Quelle promesse David avait déjà, alors que Saül a été rejeté. Il y a juste eu le règne de Saül, mais aucun de sa famille n'a pu régner. David avait eu cette promesse que ce seraient ses enfants. Et ça serait ses enfants, même pour l'éternité. On sait que c'est une réalité, parce que la postérité de David est sorti le Christ, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et qui règne, et qui régnera au siècle des siècles. Et David avait reçu cette promesse. Et puis il commence à dire donc, « Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, tu traiteras au verset 7 avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaïte. Voici, tu as près de toi, au verset 8, Shimei, fils de Guéra, Benjamite, il a prononcé contre moi des malédictions. » Et donc David est en train d'expliquer, voilà, certains m'ont fait du mal, certains m'ont fait du tort et ils sont restés impunis. D'autres m'ont fait du bien et on n'a pas pu leur rendre à la mesure de leur bonté. Alors, toi, fais-le, Salomon. Et c'est exactement ce que David voulait communiquer à son fils. Il voulait que pour avoir cette paix, pour que son règne soit un règne de paix, il fallait que les choses du passé soient réglées. Et c'est exactement ce que Salomon s'est mis à faire. Vous lisez ce chapitre 2 et vous voyez que, au fur et à mesure, les différents personnages qui se sont retournés, révoltés contre David à un moment donné et qui sont là dans le royaume, eh bien, ils ont reçu à la mesure de leur faute, tout simplement. Ils ont reçu le jugement qu'ils méritaient. Et ceux qui ont fait du bien, à un moment donné, David a dû fuir devant son fils qui venait prendre le pouvoir à sa place. Et il y a un homme qui l'a accueilli. Il y a un homme qui a pris soin de lui dans ces moments-là et risqué sa vie, puisque c'était plus l'autorité. Mais il a pris position pour David. Et le Seigneur l'a béni en retour. Et le Seigneur a permis que Salomon soit quelqu'un qui accueille à sa table les fils de cet homme. Vous savez, quand on fait le bien, même quand c'est dans des temps difficiles, quand on choisit, quand on se positionne, quand on s'engage à faire le bien, mais le Seigneur, il s'engage envers nous. Et envers les nôtres. Parce que l'homme qui a fait ça, il est resté dans son pays, mais il a envoyé ses enfants à la table du roi Salomon. Et on sait que ceux qui étaient à la table du roi Salomon, ils étaient bien traités. Quand on lit la parole, il n'y a aucun roi sur la terre qui a eu une grandeur, une richesse, une gloire aussi importante que Salomon a pu avoir dans ce moment-là. Ça a été un créneau très court dans l'histoire d'Israël, parce qu'après il y a eu le royaume divisé en deux, il y a eu les déportations, il y a eu plein de choses. Mais dans ces moments-là du règne de Salomon, cet homme de paix, il y a eu une gloire, une grandeur et une bénédiction incroyable. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien? Est-ce que c'est trop compliqué dans nos esprits ou pas de faire le lien entre la paix qui vient du Seigneur et la bénédiction qui vient du Seigneur? Je crois que le lien, il est évident. Et combien on a tout intérêt à laisser, comme on le lisait d'ailleurs pour la Sainte-Cène, que la paix de Dieu règne dans notre cœur. Est-ce que c'est la paix de Dieu qui règne dans notre cœur? Ou est-ce que ce sont d'autres choses? Mais quand la paix de Dieu règne dans notre cœur, alors le Seigneur nous les accompagne de sa grâce. Mais pour que cette paix règne, eh bien, il faut que les affaires du passé soient réglées. Vous savez, des fois on entend cette expression, et l'eau a coulé sous les ponts, voilà, c'est bon, c'est oublié. Et en fait, quand on parle avec les gens, on s'aperçoit que même si l'eau a coulé un siècle sous les ponts, eh bien, le problème il est toujours là. On a besoin d'être clair. Quand il s'agit de pardonner, on a besoin d'aller voir les personnes et de pardonner, si on peut les voir. Ou d'écrire un courrier, au moins, de faire une démarche, en tout cas, quelque chose. Mais on a besoin de se mettre en œuvre. Et Salomon a été celui qui a fait cela. Et à la fin de ce chapitre, justement, il est dit que donc le roi donna ses ordres, etc., par rapport à toutes les situations. Et regardez la toute fin de ce chapitre. Le chapitre 2, il est consacré à ce règlement des comptes du passé. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. La royauté fut affermie parce que cet homme a réglé tout ce qu'il fallait qu'il règle. Et peut-être que le problème dans nos vies, où on voudrait voir le règne de Dieu dans notre cœur particulièrement, et puis on a du mal à le voir vraiment, c'est parce qu'on laisse certaines choses perdurer alors qu'elles ne devraient plus être là. Mais si on se met à la tâche, si on s'attelle à la tâche de régler, eh bien, la royauté sera affermie entre nos mains. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur régnera entièrement en nous. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreux, « Fortifiez donc vos mains languissantes, vos genoux affaiblis, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » S'il y a quelque chose de boiteux dans notre vie, mais fortifions-nous dans le Seigneur et laissons le Seigneur nous guérir spirituellement et nous allons pouvoir avancer à nouveau. Dieu nous appelle à avoir la paix. Dieu nous appelle d'abord à avoir la paix dans le cœur, la paix de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Quand on croit en Jésus, quand on croit au sacrifice de Jésus, on a la paix de Dieu. D'accord ? Ça, c'est le tout début. Mais petit à petit, quand on avance avec le Seigneur, on s'aperçoit qu'on traîne les casseroles et on a besoin de régler tout ça. On a besoin d'aller plus loin pour que Dieu devienne véritablement le Dieu qui agit en nous et qui nous entoure de sa présence. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans l'inquiétude? Qu'est-ce que vous faites? Comment? On compte les bienfaits, voilà par exemple, ça c'est une bonne chose. On prie, c'est tout. Il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut louer le Seigneur. On laisse tout dans ses mains, et c'est exactement ce verset-là qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien », ça veut dire, si on traduit en français courant, « Quand vous êtes dans l'inquiétude, arrêtez et faites connaître au Seigneur tous vos besoins par des prières. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Qu'est-ce que c'est la paix de Dieu? Est-ce que la paix de Dieu, ça veut dire que quand je vis ça, je suis dans un état où il n'y a plus rien de négatif qui m'arrive jamais? Est-ce que c'est ça la paix de Dieu? Mais si plus rien de négatif ne nous arrivait sur la terre, on n'en aurait pas besoin de la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, c'est justement, malgré tout le négatif qu'il y a autour de moi, comme Salomon, il était entouré d'ennemis, mais il était dans la paix au milieu, dans son cœur. Il était dans la paix du cœur parce que le Seigneur était avec lui. La paix intérieure que le Seigneur veut nous donner, elle passe par ces moments où je règle les affaires du passé. La première affaire du passé à régler, c'est l'affaire du péché. Mais quand j'ai réglé l'affaire du péché en croyant en Jésus, je règle les choses que le Seigneur me montre petit à petit. Combien il nous aime, le Seigneur? Moi, je suis toujours émerveillé. Parce qu'il pourrait nous dire, le jour de notre conversion, regarde tout ce qui ne va pas chez toi, et nous faire une liste longue, plus longue que mon bras. Mais non, il nous montre une toute petite partie. Et là, déjà, on se met à pleurer, on est plus bas que terre, on est humilié devant tout le mal qu'on a fait. Sauf que petit à petit, bien sûr, le Seigneur nous pardonne, mais petit à petit, il nous montre que la liste, elle est en fait plus grande que ce qu'il nous a montré au tout début. Et petit à petit, il nous montre que tu manques de patience, tu manques de persévérance, tu manques de compassion, tu manques clac, clac, clac. Mais il le fait avec de la délicatesse, et jour après jour, on découvre ce dans quoi on peut progresser, dans le but de nous manifester dans notre cœur cette paix qui va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Mais Salomon n'était pas seulement un homme qui règle les affaires du passé, il était aussi quelqu'un qui recherchait la paix, quelqu'un qui voulait plus du Seigneur. Et c'est ce qu'on voit au chapitre 3, juste après, et le verset 4, « Regardez l'état de cœur de Salomon. Il a de qui tenir, on est d'accord. » Mais quand même, il a fait lui-même son expérience. Il n'a pas dépendu seulement de la foi de son père. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Il n'y avait pas encore de temple. Salomon offrit 1000 holocaustes. Rien que ça, hein. 1000 holocaustes sur l'autel. Ça veut dire 1000 animaux qui ont été offerts en entier en sacrifice. 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ça vous intéresse que Dieu vous dise ça? Mais pourtant, c'est possible puisque Dieu l'a fait pour Salomon. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?» Amen. Qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question, cette proposition du Seigneur? Demande ce que tu veux que je te donne. Qu'est-ce que vous auriez dit? Alors, il y a plein de choses qu'on aurait pu dire, mais regardez la réponse de Salomon. Demande ce que tu veux, et on sait que le Seigneur est puissant, et quand il s'engage de cette manière, on peut lui demander ce qu'on veut, mais Salomon avant de partir dans les histoires de richesse et de gloire et de règne prestigieux, il demande simplement d'être assez intelligent pour être à la mesure du règne et de ce pays d'Israël. Aide-moi à prendre bien soin des personnes que tu mets sous ma responsabilité. Quand le Seigneur nous demande quelque chose, est-ce que nous sommes conscients de nos limites? Salomon, c'est la première chose qu'il dit, je suis faible, je suis petit, je suis un jeune homme sans expérience, comment est-ce que je vais m'en sortir dans cette affaire? Mais Seigneur, toi tu peux me donner. Vous savez que si on veut voir la gloire de Dieu, si on veut que la paix de Dieu nous soit donnée, il faut être conscient de nos limites et conscient aussi de nos responsabilités dans nos limites. Nous sommes tous des rois et des reines dans un domaine particulier. Nous sommes tous appelés à avoir une responsabilité sur des domaines précis dans nos vies. Parfois c'est notre travail, parfois et c'est notre famille, en tout premier lieu c'est notre famille, notre couple, nos enfants. Nous avons une responsabilité et nous avons aussi la responsabilité en tant qu'enfant du Seigneur de le témoigner de lui. Est-ce que nous faisons comme Salomon qui disait « Je suis un jeune homme, une jeune fille, même si j'ai 80 ans passés, Seigneur, devant toi, je suis qu'un jeune homme, une jeune fille, et je manque d'expérience, et j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de pouvoir discerner le bien du mal. » Salomon a fait cela, et il l'a fait dans quel contexte? Est-ce qu'il l'a fait alors qu'il était, comme David la semaine dernière, sur sa terrasse en train de se reposer tranquillement, en train de bronzer? Non, il a passé une nuit à prier, une nuit devant Dieu, suite à 1000 sacrifices, 1000 holocaustes, pour dire au Seigneur, Seigneur, tu mérites tellement de louanges, je ne sais pas comment l'exprimer, alors c'était son moyen de l'exprimer. Mais il a passé une nuit devant le Seigneur. Ça vous arrive souvent de passer une nuit devant le Seigneur? C'est pas courant, faut avouer. Mais là, il avait un désir ardent dans son cœur. Et si nous voulons que la paix de Dieu nous submerge, il faut aussi prendre la mesure de nos responsabilités en prenant du temps devant Dieu de qualité. Je vous dis pas de passer toute la nuit forcément, mais de chercher le Seigneur de tout votre cœur. C'est dans ce moment-là, d'ailleurs c'est dans un songe, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il était plus ou moins endormi, dans un songe que le Seigneur lui a parlé. Que le Seigneur s'est révélé à son cœur et lui a fait cette proposition et que Salomon a eu l'intelligence, il avait déjà un petit peu d'intelligence, hein, avant d'être le roi le plus sage de toute la terre. Il a donné une réponse intelligente. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Qui d'entre vous manque de sagesse? Je lève plus haut que vous tous. Je suis sur l'estrade. Donc c'est facile. Mais vous savez ce que dit la Bible? C'est inversé, ça, hein? Que celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Seigneur ne nous reproche pas notre manque de sagesse. Il va nous le reprocher si on ne lui demande pas, en fait. Mais si on le reconnaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta sagesse, de ton amour, de ta compassion. Et je veux prendre du temps pour chercher cela. Eh bien, le Seigneur est celui qui se révèle. Et vous savez que le Seigneur, ça lui a plu cette réponse. Quand on lit la suite, cette demande de Salomon plut au Seigneur au verset 10. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Waouh ! La réponse du Seigneur. Je te donne ce que tu as demandé, et puis le bonus. Mais vous savez que ça, c'est comme ça que le Seigneur fait. Quand on le cherche de tout notre cœur, quand on lui demande quelque chose de pertinent et de bon pour nous, ben le Seigneur, il nous donne ça, mais en plus, il nous bénit davantage. Et on sait que Salomon, même les gens qui sont incroyants, ils ont entendu parler du règne de Salomon parce qu'il a marqué l'histoire. L'histoire a été marquée par le règne de cet homme, simplement parce qu'au moment donné, il a recherché le Seigneur de tout son cœur. Il a recherché cette paix qui vient du ciel et l'a trouvée dans la présence de son Dieu. Dans la parole de Dieu, on trouve souvent cette expression de rechercher la paix. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est bien la paix, mais la paix, c'est pour s'édifier mutuellement. Je veux pas avoir juste la paix juste pour moi, et puis je m'intéresse pas aux autres. Non, non, il y a une édification mutuelle. Je veux bâtir ensemble avec mes frères et sœurs. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je veux rechercher la paix, mais je veux aussi pas juste rester dans un état de confort paisible et vous savez, ce fauteuil spirituel dans lequel je me repose et puis c'est tellement bien que je m'endors, je me berce. Non, non, je veux aussi la sanctification, je veux aussi marcher de progrès en progrès, je veux aussi faire les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Comment est-ce que je peux rechercher la paix? La parole de Dieu nous dit en m'associant avec des personnes qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Combien c'est important. Je peux rechercher la paix tout seul dans mon coin, mais le Seigneur veut que je sois dans une famille et qu'ensemble, alors que nous invoquons le nom du Seigneur, le Seigneur manifeste sa grâce. Il y a un homme qui avait cherché dans le bouddhisme et l'hindouisme, il avait cherché la paix. C'était vraiment une requête de son cœur. Seigneur, je voudrais avoir la paix. Enfin, il disait pas Seigneur, parce qu'il savait pas trop à qui s'adresser. La force de la nature ou autre chose. Il voulait trouver la paix. Et puis, un jour, il en était à un point où il avait le cœur vide, totalement vide. Sa religion n'avait rien donné comme paix. Et donc, il a fermé sa porte, il a pris un couteau, et il était prêt à se tuer en disant, mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien au-dessus. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour trouver la paix et puis j'ai pas eu de réponse. Puis au moment où il allait planter le couteau dans son ventre, il entend la voix d'un homme qui est à la porte. Il sait pas trop comment il est rentré, mais en tout cas cet homme lui dit, je sais que tu as fait tout ce que tu as pu pour trouver le repos. Et viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Alors, cet homme, il se demande pourquoi il est venu et comment est-ce qu'il était au courant de son affaire. En tout cas, il le suit et il l'amène à la frontière du Tibet. Il y avait une rivière qui était là. Il lui dit, attends ici, je vais chercher quelqu'un. Et à 10 kilomètres de là, il y avait une personne, un chrétien qui était là. Et ce chrétien, il voit un homme arriver. Donc c'était l'homme qui était venu chercher celui qui voulait se tuer. Et le chrétien, il entend la demande de cet homme, viens voir l'autre, il a besoin que tu l'expliques, que tu lui témoignes de ta foi. Alors cet homme s'est dit, bah, tiens, ça doit être un ami de celui qui voulait se tuer. Et pendant qu'il attendait, celui qui voulait se tuer dit, tiens, il est peut-être allé chercher son ami. Donc les deux, ils savaient pas trop envers qui ils attendaient. Toujours est-il que cet homme a amené ce chrétien vers ce monsieur-là. Et il a commencé à lui parler du Seigneur Jésus. Et il a commencé à lui témoigner de sa foi. Et il a commencé à lui expliquer que la paix véritable, elle se trouve dans la présence de Dieu. Et cet homme, qui était assoiffé, qui était totalement sec dans son cœur, a commencé à sentir les eaux vives de la paix du Seigneur l'envahir. Il y a quelque chose qui s'est passé. À tel point qu'il a été convaincu de pécher sur l'instant, il s'est repenti. Et le chrétien qui a vu ça, cette œuvre de l'Esprit dans son cœur, il a dit, mais il faut que tu te fasses baptiser maintenant, il y a une rivière, qu'est-ce qu'on attend? Et il a dit, allez, on y va. Et puis, il s'est fait baptiser. Et puis, ils ont dit, mais avant de te faire baptiser, enfin, après, on va remercier ton ami. Et donc, le monsieur qui s'est fait baptiser a dit, mais non, mais c'est ton ami. Et le chrétien dit, mais non, c'est ton ami. Et ils ont commencé à le chercher, et le monsieur en question avait disparu. Et on n'a jamais su qui c'était. Est-ce que c'était un ange? Est-ce que c'était un homme que Dieu a envoyé? Peu importe. Le Seigneur avait entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait un désir de paix dans son cœur, qui recherchait la paix. Et je peux vous dire de la part du Seigneur que quand on cherche le Seigneur, quand on cherche la paix du Seigneur, il ne nous laisse pas tomber. Il ne nous laisse pas de côté, mais il nous donne, parce qu'il est celui qui se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Quand on le cherche vite fait, bien fait, ça marche pas. Quand on le cherche et qu'on n'y met pas tout son cœur, eh ben ça fonctionne pas. Mais quand on le cherche de tout notre cœur, Mais le Seigneur se révèle. Salomon a cherché Dieu de tout son cœur et il a trouvé. Pour régner dans la vie, il faut que nous recherchions le Seigneur, sa paix, sa sagesse, et le Seigneur va nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Et ce qui est particulier, ce dernier verset que je voudrais lire avec vous, c'est que le Seigneur nous appelle aussi à être de ceux qui procurent la paix. 1 Roi chapitre 4 verset 24, regardez juste ce que le Seigneur dit par rapport au règne de Salomon. 1 Roi 4, 24. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tsifach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il y avait la paix de tous les côtés alentour, Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Amen. Cet homme avait cherché auprès de Dieu la paix et la sagesse dont il avait besoin. Le résultat, c'est que tout le pays d'Israël était sous une influence de paix. Et même les ennemis alentour n'osaient pas attaquer Israël parce qu'il y avait une paix que Dieu avait manifestée, une paix surnaturelle sur le pays d'Israël. Quand on cherche Dieu, quand on cherche Dieu de tout notre cœur, il nous remplit, mais il nous appelle aussi à procurer la paix à ceux qui sont autour de nous. Un vrai fils de Dieu se reconnaît à la paix qu'il procure. Est-ce que je suis quelqu'un qui amène la paix là où je vais? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui amène les conflits, qui amène les murmures, qui amène les critiques? Regardez ce que Jésus a dit sur la montagne. Heureux ceux qui procurent la paix. Car quoi? Ils seront appelés fils de Dieu. On va reconnaître les enfants du Seigneur à la paix qu'il manifeste. Il y avait un moine qui s'appelait Télémaque. C'était au 4e siècle, à peu près après Jésus-Christ. Et donc, il a senti dans son cœur cet appel à se rendre à Rome. Il était dans un monastère cloîtré, et donc il a mis ses affaires, et il est parti dans cette ville qui symbolisait le péché, les orgies, c'était la décadence de Rome, c'était tout ça qui était dans son esprit, mais il sentait vraiment qu'il fallait qu'il aille là-bas. Et donc, il a entendu, quand il est arrivé dans la ville de Rome, il a entendu une clameur, du bruit. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette excitation dans cette ville? Et en fait, on lui a expliqué qu'il y avait le combat des gladiateurs dans l'arène. Et donc, les gens étaient en train de s'entretuer. Alors lui, il a voulu voir ça. Il s'est dit, dans son cœur, c'est pas possible. 4 siècles après que le Seigneur soit venu mourir à la croix, des gens sont encore en train de se tuer et se donner en spectacle. Et donc c'est dans cet état d'esprit qu'il y allait, hein. C'était pas pour regarder, mais il y a quelque chose dans son cœur qui battait, et donc il entre dans le Colisée, et il entend les gladiateurs qui sont là, qui font leur salut, Ave César, ceux qui vont mourir te saluent, et ils commencent, les gladiateurs, à sortir leur épée, à se battre, etc. Et cet homme, il n'a qu'une idée, qu'un mouvement, qu'un élan, c'est de sauter par-dessus la barrière et de rentrer dans l'arène et de s'interposer entre les gladiateurs en disant « Au nom du Christ, arrêtez! Au nom du Christ, arrêtez !» Et la foule qui est là, qui a soif de sang, qui désire qu'il y ait du spectacle, elle dit « À mort! Mettez-le à mort! Mettez-le à mort !» Alors, il y a un gladiateur, quand même, il a pitié, il le tape avec son épée, il le transperce pas, mais il le tape pour le bousculer et le fait tomber. Et ce prêtre donc se relève et continue de dire « Au nom du Christ, arrêtez! Au nom du Christ, arrêtez !» La foule continue d'acclamer en disant « À mort, à mort !» Et il y a un gladiateur qui est là, qui prend son épée, qui le transverse. Et le sang commence à couler sur le sol, et cet homme qui commence à tomber, à vaciller et à expirer, mais dans le dernier souffle de sa bouche, il dit « Au nom du Christ, arrêtez !» Et puis il s'éteint comme ça. Et tout le monde reste stupéfait. La foule qui disait à mort devient totalement silencieuse et un silence pesant. C'est comme si le temps s'arrête. Et puis, il y a un homme de la foule qui commence à tourner le dos et à partir. Et puis il est suivi par un autre. Et puis il est suivi par beaucoup d'autres. Et finalement, le Colisée s'est vidé. Les gladiateurs ont arrêté le combat. Et c'est le dernier spectacle de combat de gladiateurs qui a eu lieu dans le Colisée à ce moment-là. Mais il a fallu qu'un homme qui voulait procurer la paix le paye de sa vie. Est-ce que nous en sommes à ce point-là? Je ne dis pas qu'il faut qu'on soit de ceux qui offrent notre vie forcément, parce que le Seigneur l'a fait pour nous. Mais cet homme voulait tellement qu'il y ait la paix qui règne, qu'il a été jusqu'à donner sa vie. C'était quelque chose qui comptait pour lui. Est-ce que nous voulons procurer la paix à ceux qui nous entourent? Est-ce que nous voulons faire de même que le Seigneur Jésus a fait? Le châtiment qui nous donne la paix, c'est-à-dire que Jésus nous a donné la paix, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus à la croix montre comment on peut donner la paix, être quelqu'un qui procure la paix, et il a fait au maximum à toute l'humanité, tous ceux qui le veulent bien en tout cas. Mais il nous invite à être de ceux qui consacrent leur vie, leur cœur, leur âme, leur souffle, à procurer la paix. Vous savez, frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons être des bons témoins du Seigneur aujourd'hui? C'est pas en ayant de beaux discours bien élaborés, c'est pas en ayant des versets clés travaillés qu'on connaît par cœur, etc. Même si tout ça, ça aide. Mais c'est en étant des personnes qui procurent la paix. Dans le monde dans lequel nous vivons, qui est agité, qui est dans la confusion, qui est dans les inquiétudes, qui est dans les craintes, quel ressourcement de voir des personnes qui sont dans la paix malgré tout. Quelle assurance et quelle espérance ça peut donner de voir des personnes qui tiennent bon. Oui, il y a des tempêtes. Oui, il y a des difficultés. Il y a des ennemis sans nombre, c'est ce qu'on vient de chanter. Mais on a la vie et la paix dans le Seigneur Jésus par la foi. Que son nom soit béni. On va fermer les yeux. Et je voudrais réitérer cette prière de l'apôtre Paul qui dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Que la paix de Christ règne. Seigneur veut que nous régnions dans la vie. Il veut pas qu'on écrase les gens, mais il veut qu'on règne dans nos propres vies. Et ce n'est possible que si lui, il règne sur notre cœur. Et ce n'est possible que si sa paix règne en nous. Je ne sais pas, mon frère, ma sœur, mon ami qui est là ce matin, je ne sais pas ce que tu vis, mais Dieu le sait. Et Dieu, en tout cas, une chose est sûre, il veut t'accorder sa paix. Peut-être que c'est pour la première fois, c'est la paix du salut. Peut-être pour quelqu'un, c'est la paix dans l'épreuve ou la paix dans la maladie. Toujours est-il que le Seigneur est celui vers lequel tu as raison de te tourner. Et dans ces moments, alors que sa parole vient d'être annoncée, simplement mets ta confiance dans les promesses qu'il vient de te rappeler. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu de paix qui veut t'entourer de sa grâce. Éternel, je bénis ton saint nom dans ces instants. Je loue ta présence. Je loue le travail de ton Saint-Esprit aussi, qui agit dans les cœurs. Et je prie, Seigneur, que cette œuvre puisse se faire encore davantage dans ces instants. Alors que nous prions, alors que nous tournons vers toi, alors que nous te présentons nos besoins, Seigneur. Malgré nos inquiétudes, tu es le Dieu qui déverse ta paix. Tu connais les situations, tu connais les difficultés, tu connais les oppositions, mais tu es le Dieu qui honore la foi de ceux qui te cherchent. Comme cet homme qui était prêt à mettre fin à ses jours et que tu as envoyé quelqu'un pour lui amener le salut. Seigneur, ce matin, tu nous places devant toi et tu nous envoies ta parole pour qu'elle nous amène dans la paix, Seigneur. Oh, je prie, oui, que ta paix puisse être déversée dans nos cœurs. Que ton amour soit déversé dans nos cœurs, Seigneur. Que s'il y a des choses du passé qui sont là et qui traînent, tu nous donnes la force d'effacer tout cela et de marcher dans cette vie nouvelle que tu nous accordes. S'il y a, Seigneur, des blessures du passé qui nous entravent dans notre marche, oh Jésus, tu es le Dieu de guérison et que la guérison germe promptement auprès de tous ceux qui crient à toi dans ces instants, Seigneur. Merci. Merci pour l'assurance que tu nous donnes. Merci pour le salut qui est auprès de ceux qui se confient en toi. Amen.